Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte des 90s qui a marqué nos années collège. On vous parle de grunge, de dance, de R&B et de tous ces albums qu'on a un jour enregistrés sur cassette. Dans cet épisode, on va refaire l'histoire géniale des Daft Punk et de Homework, leur premier album, qui contient les titres fondateurs Burning, Around the World et bien sûr Daft Punk. C'est une pierre angulaire des musiques électroniques et surtout un tournant crucial dans l'histoire de la pop music. Aujourd'hui, nous allons voir comment deux petits Frenchies ont réussi à imposer la techno sur la bande FM avec un son brut et minimaliste qui allait retourner le circuit de la grande consommation sans aucun compromis. Alors pour célébrer cet album, on a voulu faire les choses en grand. Radio Cassette s'associe avec le podcast Écoute ça qu'on adore pour une collaboration complètement inédite. En face A, Radio Cassette retrace l'histoire de Homework. En face B, Écoute ça analyse dans le détail les 16 titres de l'album. La suite de l'émission, vous pourrez donc aller l'écouter chez les copains de Écoute ça, ça va être super bien. Daft Punk, on en parle tout de suite maintenant avec la Dream Team de Radio Cassette. Fanny.
Salut.
Grégoire.
Hey, salut la compagnie.
Et Olivia.
Salut, salut.
Voilà, j'espère que vous êtes prêts. On va se réécouter l'album en mode Fast and Furious. Si vous ne vous en souvenez pas, Homework, ça ressemblait à ça.
WGBK NT3.7, the sound of tomorrow, the music of today, brings you exclusively Daft Punk's Homework. We'll be right back.
mais quelle claque! Franchement, voilà pour les 16 titres de Homework. C'est le premier album des Daft Punk. Il sort le 20 janvier 1997 sur le label Virgin chez EMI, en vinyle, en CD, cassette et même en mini-disque. Je vous passe mon couplet là-dessus, mais c'était la révolution, les mini-disques à l'époque.
T'as voilà. Des actions, Manu, non, c'est ça hein.
Ouais,
t'as encore des actions.
On a failli appeler le podcast Radio Mini-Disque, d'ailleurs.
Oh merde, je savais pas ça, moi.
Non, c'est pas vrai. Mais voilà, pour Homework, c'est un gros succès commercial et une grande première pour un album de house et techno. Il se vend à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. Et à partir de ce moment-là, le monde entier commence à s'arracher tout ce qui touche de près ou de loin à la French Touch. Les Daft vont entraîner dans leur sillage Étienne de Crécy, R, Cassius et bien sûr le projet parallèle de Thomas Bangalter, Stardust. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Tous leur doivent au moins quelque chose. Faut bien se rappeler qu'en 1997, c'est à l'époque le règne des boss bands de Ricky Martin, de Gala. Voilà, c'est aussi les débuts de l'émission Graines de Star présentée par Laurent Boyer. Et au cinéma, on va voir Didier ou Space Jam. Moi, à l'époque, je disais Space Jam, alors qu'on dit...
Space Jam.
Space Jam, en fait, ouais.
Je viens de te jeter un regard noir, j'en ai dit. C'est pas mal, Space Jam.
Donc, voilà. Jam. J'avais adoré ce film, je sais pas vous. Mais voilà, on va faire maintenant un petit tour de table. Daft Punk, en 1997, ça vous évoque quoi? On commence par toi, Fanny.
Rien. Moi en 97 j'écoute pas du tout Daft Punk parce que je suis trop petite et que j'ai pas l'âge d'écouter de la techno et des trucs de rave party, tu vois. Donc moi à l'époque je suis branchée sur G-Squad et pas sur les Daft. Par contre j'ai quand même eu une période French Touch qui est arrivée un tout petit peu après, mais qui est liée aux autres groupes de la French Touch, pas Daft Punk, qui j'ai jamais trop aimé. Par contre, j'étais très très fan de R, et puis je me rappelle tous les singles trop cool qui étaient sortis à l'époque de, je sais pas, Mojo, Demon, Stardust aussi, ouais. Voilà, tout ça c'était...
Les seconds couteaux, quoi.
The Superman Lovers.
Ouais, mais c'est marrant, c'est vraiment ce que la vague French Touch a fait de plus commercial, quoi. Tout le monde s'engouffrait derrière avec des gros projets comme ça qui étaient pas les meilleurs. Aujourd'hui, c'est pas ce dont on se souvient le plus, quoi.
Non, enfin si, moi justement, quand je retombe sur le clip des Superman Lovers, je te rappelle avec les mecs là, qui ont les têtes de patates, et ben je trouve ça super cool quoi. Et mais après voilà, bon, on reparlera
dans un prochain épisode. Ok, et toi Greg, du coup c'était quoi?
Bah moi je pense que c'était vraiment la découverte pour moi de la musique techno. C'est-à-dire c'était moi à l'époque j'écoutais plutôt du rock. Et je crois que je suis tombé sur les clips de Daft Punk qui visuellement étaient hyper forts. Enfin, ouais. Tu regardes Daft Punk, t'as l'impression de voir un film. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce truc?
Ouais.
Et j'écoutais, je pense, la musique sans trop comprendre. Mais je me souviens que j'étais complètement fasciné, en fait, par ce que je voyais, par ce que j'entendais. Je me souviens aussi du clip de Révolution 909.
Ouais.
Où t'as ce plan comme ça sur des tomates à l'arrière d'un pick-up. Mm. Et je me souviens que voilà, visuellement, ça m'a vachement marqué. Quoi. C'est vraiment un truc que je trouvais complètement hallucinant sans trop comprendre parce que voilà, c'était vraiment une découverte et je me disais mais
le son il te plaisait?
J'étais un peu entre les deux parce que j'étais pas habitué, je pense que c'est comme toutes les nouveautés en fait
on est dérouté,
j'hésitais en fait entre me dire bah c'est de la techno, c'est de la musique électronique, moi j'écoute du rock, tu vois, donc et en même temps j'aimais quoi, je pense que j'aimais vraiment ça, ouais.
Bah, visuellement en tout cas quoi.
Ouais.
Et toi Oli, c'était quoi?
Alors écoute, moi j'ai aucun souvenir de Daft Punk en 96 ou 97 puisque comme Fanny, je n'écoutais pas cette musique. C'est aussi l'intérêt d'ailleurs de Radio Cassette parce que finalement ça nous fait sortir un peu de notre zone de confort. Moi je me rends compte rétrospectivement que j'ai une enfance hyper réac finalement hein puisque j'écoutais Goldman et Bruel. Donc non, j'écoutais pas du tout les Daft Punk et j'ai pas particulièrement de souvenirs sauf un qui m'est revenu en préparant l'émission. Alors je sais pas d'où ça sort dans mon inconscient, mais je me souviens d'une scène avec mon cousin en voiture en vacances à Ibiza où Daft Punk tournait dans l'autoradio et mon cousin qui m'expliquait comment à Paris on se gare en tapant un peu la voiture devant, en tapant un peu la voiture derrière. Et voilà,
sur c'est fond de Rolling and Trantin.
Exactement. Donc tu vois, j'étais pas ultra concentrée non plus sur la musique, mais j'ai bien compris comment on faisait à Paris à l'époque.
Et toi, Manu?
Alors moi, je pense que c'est un peu comme toi, Greg, parce que c'était des clips. Je me souviens très bien des clips. J'ai découvert Daft Punk. C'était sur M6 avec le chien, avec l'homme chien Claude. dos.
Et puis il y a un truc, c'est que, excuse-moi Manu, mais c'est vrai que ça détonnait par rapport à ce que tu pouvais entendre comme clip à l'époque sur M6. C'est-à-dire que tu voyais déjà visuellement comment c'était canon, et cette musique-là, tu l'entendais absolument pas. Enfin,
du coup, ah ouais, ça, non, ça, c'était une sacrée révolution.
Ça détonnait vraiment, quoi.
Ah, clairement. Et moi, je me souviens très bien, c'était pendant des vacances à la mer. Je me souviens, on était dans le grenier sur une vieille télé avec c'était la télé avec les gros boutons, tu vois. Et avant.
On dirait un film de Spielberg.
Mais oui, mais c'était exactement ça, quoi. C'était exactement ça. Et j'avais halluciné sur Daft Punk. Et avant de passer à table, j'en pouvais plus, je chantais waouh, 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 tu vois, comme un débile, parce que j'étais le seul à avoir vu le truc, quoi. Mais j'étais déjà méga fan. Et puis après, je me souviens d'avoir acheté l'album à la Fnac. C'était un de mes premiers CD d'ailleurs, l'album de Daft Punk. Avec mes petits sous, ouais, je pense qu'à l'époque ça devait bien valoir 100 balles, donc en termes d'argent de poche, fallait un peu économiser. et voilà. Et en fait, mis à part les singles que j'aimais bien, le reste j'aimais pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai copié sur cassette et ensuite je suis allé
sur mini disque.
non, parce qu'on est en 97 à l'époque. À l'époque, lui il sort, mais moi j'en ai pas encore. Voilà, ouais, tu vois. Ouais. Et donc moi j'ai déjà la chance de pouvoir lire des CD, donc déjà je m'accroche à ça.
C'est l'horrible enfance.
C'était trop dur.
Sauf que des CD, ça ne se lit pas, c'est des livres plutôt que. Bon, on la coupera en montage.
Et donc, je me retrouve à copier cette cassette et quelques mois plus tard, je suis allé le racheter finalement et pour un peu plus cher du coup parce que il était plus en prix vert. Voilà, c'était fini. Et en tout cas, je l'ai réécouté.
C'est très intéressant, Emmanuel. Oui. N'hésite pas à partager ces belles anecdotes.
Je vous dis tout. Je vous dis tout. Voilà. Voilà pour moi, voilà pour les souvenirs. J'espère que ça vous a plu. On va vous raconter maintenant la story de cet album. Elle commence en fait sur les cendres d'un petit groupe de rock, tendance shoegaze, qui s'appelle Darlene.
Mais absolument, mon cher Manu. Alors, si tu me le permets, j'aimerais bien qu'on remonte un tout petit peu dans le temps. Donc, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Hornem Christo se rencontrent en 87, en quatrième, sur les bancs du collège Carnot à Paris. Fun fact, c'est là où se sont aussi rencontrés Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac 20 ans plus tôt.
Tiens, tiens.
À 15 ans, ils décident de monter un groupe de rock qui s'appelle Darlene. Je crois d'ailleurs que nous avons un petit extrait à passer, mon cher Manu. Send this all out, send this all out.
Ils arrivaient déjà à faire des chansons avec trois mots.
C'est ça.
Et trois accords, ouais. Ouais, ouais. Il y avait déjà un truc un peu répétitif, ouais, là. On vous fait la version courte, mais la version longue.
C'est pas mal c'est qu'il a arrêté pareil. Le rock, en fait, je me dis, ouais. En fait. Donc, vous savez qui était le troisième de la bande ? Ah bah si, vous savez, mais vous le dites pas. Vous avez le conducteur devant les yeux.
Le mec de Phoenix ?
Bravo Fanny ! C'est Laurent Brankovitz, futur guitariste de Phoenix. Apparemment, il aurait juste répondu à une petite annonce dans un magasin de musique, et voilà, coup de foudre amical. Le disque sort à 1000 exemplaires, un magazine anglais Melody Maker en fait une chronique « It's Daft Punky », littéralement du punk idiot. Cette histoire de punk idiot, donc ça va les travailler un peu apparemment. Le groupe fera quelques petits concerts, puis va finir par se séparer sans raison particulière.
Parce qu'ils étaient mauvais.
C'est peut-être pour ça aussi.
Peut-être.
Il y a la chronique, mais quand même... Voilà. Ouais.
92, ils ont 18 ans. Ils assistent à leur première rave sur le toit de Beaubourg. Ils découvrent la house de Chicago, la techno de Détroit, et ça va changer le cours de leur existence. Ils commencent à aller dans les clubs à Paris, mais apparemment, ils ont un peu de mal à rentrer. Ils ont estimé à une fois sur trois. Mais les rêves, c'est beaucoup plus facile.
Les stats, j'aimerais beaucoup savoir où t'as chopé ces stats quand même, parce que je les vois pas, les gars, tu vois, ambitieux comme ils sont à 20 ans, te balancer ça.
Eh ben, écoute, je l'ai lu. Il se trouve qu'une fois sur trois, c'est une source sûre.
Ok.
Mon cher Grégoire, je souhaiterais que tu lises maintenant une citation au sujet de ces premières soirées.
Tout à fait. Donc, je suis Guy-Manuel de Hornem Christo et je dis « Les premières soirées de ma vie m'ont marqué à jamais. Quand tu arrives devant l'entrée, tu restes dehors dans le froid et tu entends les vibrations rythmiques, le boum-boum qui sort de la salle. C'est le plus grand des frissons, ce boum-boum. c'est un autre monde.
Mais moi, je trouve ça assez beau parce qu'on l'a vécu, ce truc-là, d'avoir froid, on fait la queue, on entend le boum-boum, on est super chaud. Ben voilà, ben j'ai vécu ce truc-là quand je l'ai lu et j'ai trouvé ça assez, assez parlant, finalement.
L'attente jusqu'à la révélation, jusqu'à la délivrance où tu vas pouvoir te prendre plein la gueule.
Et que tu vas payer ton coca 15 balles.
Ouais.
Peut-être pas à l'époque.
Ouais, quoique, attends, l'époque. T'es sur le toit de Beaubourg, donc à mon avis... Ouais.
Donc selon eux, dans les rêves, il y a une énergie, une innocence, une liberté qu'on retrouve plus trop dans les concerts de rock. C'est une autre et il y a une autre prise de conscience fatale. Dans les concerts de rock, les filles sont moches. Eux, ils veulent Kate Moss en backstage.
Mais quelle bande de losers, c'est quoi ces mecs?
C'est ouf. Tout ça pour choper de la meuf, en fait.
C'est les Zuckerberg de l'électro, en fait.
Bah voilà, tout est dit. Non mais voilà, c'était vraiment pour choper de la belle meuf. Donc, ils délaissent leur guitare, s'achètent quelques machines et s'enferment dans la chambre de Thomas chez ses parents qui, du coup, devient un studio. Et puis, il y a la soirée qui change tout. Fin août 93, une rêve immense est organisée pas loin d'Euro Disney avec une programmation jamais vue en France. Les soirées se passent dans plusieurs tentes, comme dans les festivals en Angleterre. Ils réussissent à passer une cassette avec leur premier morceau New Wave aux Écossais du label Soma. Ils adorent, ils en veulent plus. Problème, il n'y a que ce morceau. Ils se remettent au travail et sortent quelques mois plus tard le premier maxi de Daft Punk. En France, la techno est encore un sous-genre un peu honteux que les rockers regardent de haut. Et c'est très underground. Mon cher Manu, je voudrais bien d'ailleurs que l'on écoute un petit reportage de Canal+, diffusé dans l'émission C'est pas le 20h en 96. Il nous parle de la techno comme si c'était la musique du diable.
La production des Daft Punk est riche et complexe, répartie entre les remixes et les morceaux fabriqués sous différents pseudos pour mieux brouiller les pistes. Une musique qui peut aller du cool presque jazzy à la house très funky jusqu'à la techno la plus violente à la limite du décervelage. Leurs lives sont réputés pour leur vigueur affolante qui pourrait vous faire fusionner avec une poutre.
Non mais fusionner avec une poutre, je sais même pas ce que ça veut dire en
fait. Putain mais d'où ça sort quoi? Mais qui, pourquoi le mec a pensé à ça
je
quoi?
Je sais pas, c'est un truc sexuel non?
J'imagine. Je sais pas, moi je me disais peut-être que les mecs sont peut-être un peu raides tu vois, raides comme une poutre, je sais pas, je comprends pas quoi.
Cherche pas.
Ouais. En tout cas, dans ce petit reportage, les Daft ont à peine 20 ans et apparaissent à visage découvert, mais ça va pas durer longtemps. On est donc dans une culture du groupe caché, du anti-héros, de l'anti-star. Le modèle, c'est les Underground Resistance, un label pionnier de Détroit, connu pour son combat contre les majors, dont certains des membres jouent masqués en live. À la limite, en fait, moins le groupe vend de disques, mieux c'est. Daft Punk tourne pas mal, fait des lives, commence à se faire remarquer et une rencontre va aussi accélérer les choses, c'est celle de Pedro Winter, connu pour ses soirées hype au Folie Pigalle, puis au fumoir de la discothèque Le Palace grâce à Cathy et David Guetta. Il invite régulièrement les DJ du moment à ses soirées. Il rencontre les Daft lors d'un concert à Londres, il se revoit à Paris et les Daft lui proposent de devenir leur manager. C'est lui notamment qui amène le duo vers cette tendance à l'anti-star system, privilégiant un certain anonymat.
Alors, je te coupe deux secondes parce que j'ai une anecdote là-dessus sur Pedro Winter. Winter.
Y a-t-il un lien avec Ophélie Winter?
Non, sur David Guetta, en fait, il a avoué qu'en fait, c'était grâce au Daft, en fait, que sa carrière a commencé parce que c'est Thomas Bangalter, en fait, qui a filé à Virgin son label, qui a filé la cassette démo des premiers essais de David Guetta. Et c'est comme ça qu'il a finalement été signé, puis qu'il y a eu la carrière qu'on lui connaît. Voilà.
Classe. Sympa.
Plutôt cool.
Il aurait pu s'abstenir aussi.
Le deuxième maxi arrive en mai 94, Daft Punk, sorte de manifeste fondateur. Daft Punk, c'est un détonateur, c'est le tube qui les révèle à la scène électro. Ils entament une tournée d'un an, ils jouent partout dans toutes les rêves d'Europe et passent en première partie des Chemical Brothers qui crient qu'ils sont les plus grands fans des Daft Punk. Les maisons de disques commencent à sérieusement comprendre qu'il se passe quelque chose, alors que deux ans plus tôt, ben quand même, on se foutait un petit peu de leur gueule avec leur groupe de rock. Hein. Meilleure imitation, Fanny.
Thomas, on passe à table.
Daft Punk s'est d'ailleurs placé 8e dans la liste des 50 morceaux qui ont marqué l'histoire de la dance music par le mensuel anglais Music. Cher Fanny, je souhaiterais désormais que tu lises un extrait des Inrecuptibles, interview de Thomas.
On a joué à In The City à Manchester, toute l'industrie du disque était là, on a fait un concert qui a déchiré. Et là, tout a basculé, les fax arrivaient les uns après les autres, toutes les maisons de disques anglaises se manifestaient, tout le monde voulait nous signer.
J'aime bien la notion de fax, tu te dis que c'était il y a longtemps quand même. Mais les Daft veulent finir le disque avant de signer, histoire de garder le contrôle sur toute la production et éviter toute intrusion de la maison de disques.
Alors d'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet. Un soir, les Daft, ils jouent à l'Aqua Boulevard. L'Aqua Boulevard, ils font une soirée pour...
Il y avait des concerts à l'Aqua Boulevard.
Il y avait des concerts à l'Aqua Boulevard.
Trop cool.
Bah grave. Et en fait, c'était une soirée pour la Nuit Dauphine, la fac Dauphine. On est en novembre 95. Et là, t'as le patron du label Virgin à l'époque, qui s'appelle Emmanuel de Burtel, qui cherche, comme tous les autres, à les signer, les Daft. Donc lui, très malin, qu'est-ce qu'il fait? Il met tranquillement son réveil à minuit, il se pointe à 2h du mat, et quand les Daft commencent à jouer à 4h, et bah tous les autres label managers sont partis.
Mais
surtout il a le champ libre, et ça lui permet d'avoir le temps nécessaire pour vendre son label, faire son petit argumentaire à Thomas et Guyman, et voilà, donc il leur explique que oui, son label c'est génial, c'est celui des Chemical Brothers, qu'on va pouvoir sortir à l'international, etc. Et voilà. Bon, par contre, on connaît pas le montant du contrat, mais on
sans
dit...
Sans patate.
mais on dit que c'était un beau contrat pour un jeune groupe. Je pense qu'ils se sont fait payer un bon sac d'oseille.
Et moi, je voudrais qu'on revienne sur cette intégrité artistique des Daft Punk qui a toujours un peu étonné les professionnels de l'industrie, parce que finalement, ils ont 20 ans, mais les mecs, tu sens que quand même, ils ont bien... piger les codes. Et c'est peut-être, cette intégrité artistique, ils la doivent peut-être au père de Thomas, Daniel Vanguard, ancien producteur de groupes de variété comme Sheila ou la Compagnie Créole.
Fallait le mettre.
Oui, voilà, ça me faisait plaisir. Alors on va se faire détester, mais moi ça me faisait grandement plaisir.
Moi j'adore ce morceau, donc tu peux y aller. On peut le laisser.
On laisse.
Et mais okay. En fait, l'idée des masques, c'était.
Tout s'explique.
Derrière mon loup, je suis ce que je suis.
Au bal masqué.
Bon, revenons un petit peu quand même au Daft. Été 96, l'album est pratiquement prêt. Reste à savoir chez qui ils vont le sortir. Suspense. Tous les managers sont au taquet. Pour les négos, les Daft vont faire appel à un avocat anglais habitué aux maisons de disques. Virgin va tout faire pour les séduire, tu nous l'as raconté Manu. Ce qui est tout à fait exceptionnel quand on sait qu'à ce moment-là, ils ont à peine 20 ans. Ils ont à peine sorti 2 maxis et qu'ils n'ont vendu finalement que quelques milliers d'exemplaires. C'est assez fou quand même. Donc, ils choisissent Virgin, une major. Certains vont d'ailleurs prendre ça pour une grosse trahison. Mais pour eux, au contraire, c'est l'opportunité de populariser une musique encore très marginale. Le fait de pouvoir faire avancer les choses un peu plus vite. Début 97, quelques jours avant la sortie du disque, le groupe fait en sorte que 500 copies vinyle de l'album soit disposée chez des disquaires triés sur le volet. Sans aucune publicité, le disque est écoulé en moins de 2 jours, juste avec le bouche à oreille. C'est complètement ouf.
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, donc ça se passait chez le disquaire. C'était lui qui avait les bons sons, fallait chez le bon. Et ça se passait sous le manteau parfois.
Donc buzz énorme qui dépasse vraiment le cercle des initiés électro. Daft Punk tourne en boucle sur toutes les radios. Le premier album du duo est attendu comme une mini-révolution. Et pour la promotion, ils vont faire monter la sauce, donc ils décident de ne pas montrer leur tête dans les journaux. Sur toutes les photos de presse, ils portent des masques. Forcément, ça va très vite exciter les médias. C'est un énorme succès et les Français deviennent les rois de l'électro mondial. Les 4 singles extraits de Homework sont accompagnés de vidéos signées par des grands noms. Mais je crois que Fanny, que tu vas nous en reparler.
Tout à fait.
Plus tard. Pourtant, la critique, franchement, elle n'a pas été tendre au début. On leur a reproché au départ d'avoir signé une major. Thomas Bangalter va dire aussi dans une interview aux Arocs que Tony Braxton, le single du moment, c'est super. Que George Michael est un formidable songwriter.
Bah oui.
Mais ceci dit, c'est vrai.
Tout à fait. Mais ouais, bon, ça déplaît un peu quand même au pur et dur de l'électro.
Bah tu m'étonnes.
Donc, à force de ratisser large, on leur reproche de vouloir faire trop populaire. Le côté à la fois branchouille et à la fois commercial, ça passe pas trop, quoi. Ça va évidemment pas freiner leur ascension et vraiment là, cette fois, la machine est en marche. Le disque va se vendre à 2,5 millions d'exemplaires, dont 640 000 exemplaires aux États-Unis, 350 000 au Royaume-Uni.
Pas mal.
C'est ouf. C'est-à-dire que c'est en France qu'ils en ont vendu le plus ou c'est aux US ?
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est en France.
Ok.
Non, je crois pas disque de platine, c'est combien disque de platine ? Ce que tu dis après, il est disque de platine, mais du coup, je
sais rien.
Non.
Mais enchaîne.
Dans des pièges de ouf. Non, alors, quelle est la part du PIB de... Combien représentent à l'export les Daft à l'époque ? Est-ce que c'est 30%.
1 sur 3. Je vous ai fait un PowerPoint pour chacun de vous. Bon, bref, alors je recommence ce truc. Ça ne va pas freiner l'ascension des Daft. La machine est en marche. Le disque va se vendre, tenez-vous bien, à 2,5 millions d'exemplaires, dont 640 000 exemplaires aux États-Unis et 350 000 exemplaires au Royaume-Uni.
C'est énorme parce que dès le départ, ils sont à l'international, quoi.
C'est ouf. L'album va être commercialisé dans 35 pays et va devenir disque de platine en France. Homework, c'est vraiment l'album fédérateur à la fois branché et commercial. Il va devenir le disque de référence pour la régénération rave. Et il a aussi le mérite de rallier les plus réfractaires au son électro, dont je ne fais pas partie.
C'est dit.
C'est dit. Ouh. Merci, c'est une histoire qui est juste ouf parce que les mecs, en fait, tu te rends compte qu'à 20 ans, ils savaient exactement ce qu'ils veulent.
C'est fou.
Que leur plan, il est ultra bien calculé. En fait, c'est simple, ils font leur coup en 3 temps. T'as d'abord la sortie de Daft Punk en 95 sur un label anglais qui lance la hype. Ok,
c'est
avec
ça.
Une tournée avec le parrainage des Chemical Brothers qui, juste à l'époque, sont énormes.
Les dieux, quoi.
Et un retour au calme en 96 pour finir un album que tout le monde s'arrache déjà avant même qu'il
avant
soit terminé.
Avant qu'il soit arrivé, ouais.
Voilà. Mais le plus fort dans tout ça, c'est qu'ils ont créé un nouveau modèle pour les artistes, pour tous les artistes après eux, en choisissant celui de l'indépendance au sein d'une major. C'est on vous livre un produit qui est complètement fini et ensuite vous le distribuez.
Vous le prenez tel quel.
Exactement.
Vous pouvez pas le toucher, quoi.
Exactement.
C'est fou ça, à 20 ans. Imagine toi ce que tu faisais à 20 ans. Pas grand chose.
Pas grand chose.
Alors moi je faisais pas ça. Non, j'ai pas une carrière internationale à cette époque là.
Toi t'étais dans ton grenier à regarder une vieille télé.
C'est toujours déprimant hein, de se dire qu'il y a des gens à 20 ans qui ont
c'est
fait
dingo,
ça.
Ouais,
mais bon,
ouais.
C'est comme ça.
Faut pas le faire, hein. On a
nous,
du talent, on en a
nous,
pas.
Nous
hein.
On fait radio cassette à 34 quoi. C'est pas mal aussi.
C'est ça, c'est un petit peu après. Alors on va se pencher un peu sur le making of de Homework, un disque qui, comme son nom l'indique, a été produit à la maison, Grégoire. Est-ce que c'est bien ça?
Mais tout à fait, Manu. Homework, c'est le triomphe, on peut le dire, hein, du home studio et du do it yourself. L'album a été enregistré, on pourrait dire bricolé, dans la chambre de Thomas Bangalter, chez ses parents à Montmartre, dans une chambre d'environ 10 mètres carrés, débarrassée de son
T'es
lit.
Sûr de 10 mètres carrés?
À 10 mètres carrés, je suis sûr. J'ai des sources vraiment très précises.
Okay. C'était pas 11, quoi.
Il y a des relevés qui ont été faits.
Ah, mais c'est comme moins 1 sur 3 quand tu rentres en boîte ou pas, quoi. C'est...
Non, 10 mètres carrés, je suis sûr, j'ai de bonnes sources. Débarrassé de son lit, d'ailleurs, hein, pour faire de la place. Le matériel utilisé est lui aussi relativement basique, hein, même s'il fait partie de la panoplie de nombreux producteurs de hip-hop et de DJ de l'époque. On a par exemple un clavier Juno 106 que l'on entend sur Rollin' and Scratchin', un sampleur, un séquenceur ou encore plusieurs boîtes à rythme de la marque Roland, dont la légendaire TR-909 au grain caractéristique et qui a inspiré sur Homework le titre Révolution 909. Le tout branché sur un vieux ghetto blaster que Thomas Bangalter possède depuis l'âge de ses 11 ans. Autre élément important du dispositif, le célèbre Mini Moog, un clavier des années 70 qui fait encore référence aujourd'hui et qui permet de jouer sur les fréquences du son. Je vous le fais écouter ici sur le multipiste de Daft Punk. C'est ce Mini Moog qui sert à composer les mélodies cradingues du morceau. Le matériel utilisé pour Homework est assez simple, surtout quand on le compare aux albums qui vont suivre. En revanche, Homework a bénéficié d'un mixage analogique de qualité. Le groupe a pu notamment compter sur l'aide du père de Thomas Bangalter, on en a reparlé avec Olivier, Daniel Vanguard, gros producteur de variété des années 70 et 80, qui leur a mis à disposition une excellente console de mixage ou encore des enregistreurs à bande, du matériel lui très coûteux et donc plutôt loin du mythe d'un Homework réalisé avec trois bouts de ficelle. Quoi. Voilà, il y a eu quand même des gens derrière, il y a eu quand même un peu de matos derrière.
Et d'ailleurs, on va très écoutez la compagnie créole.
Pour revenir donc à Homework, le disque a été enregistré en 5 mois au début de l'année 1996, hein, seulement 8 heures par semaine. En fait, le duo explique que le son qu'ils recherchaient était déjà là, ils avaient déjà sorti plusieurs maxi et avaient beaucoup de matériel disponible, donc ils n'ont pas eu énormément à travailler. Le son de Homework, justement, il télescope la culture rave underground et le groove imparable du disco et de la J-funk, un sous-genre du hip-hop, le tout passé au filtre du rock'n'roll, dont les deux compères ont été abreuvés durant leur adolescence. Sur Homework, les Daft Punk ne cachent d'ailleurs rien de leurs influences multiples, en citant les musiciens qui les ont aidés à faire leur devoir sur le morceau Teachers. DJ Funk, DJ Sneak, DJ Rush, Wax Master, Hyperactive, Jamin Gerald, Brian Wilson, George Clinton, Lil Lewis, Ashley Beano, Neil Lindstrom, Kenny Dunn, DJ Hell, Louis Vega. Voilà, on va pas tous se les faire, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup.
Cette chanson.
Ouais, je l'adore celle-là, ouais. Et donc on peut entendre au début au vocodeur hein, Paul Johnson, DJ Funk, DJ Sneak, DJ Rush. Alors eux, ce sont des héros de la ghetto house de Chicago, un sous-genre cousin du hip-hop, mais sont aussi cités Dr. Dre, George Clinton, le leader des groupes Parliament et Funkadelic, ou encore Brian Wilson des Beach Boys. Alors en studio, comment fonctionne le duo? En fait, ils se complètent parfaitement. Thomas Bangalter, lui, c'est vraiment le geek, celui qui met les mains dans le cambouis, qui gère les samples, il connaît par cœur le manuel des machines, tandis que Guy Manuel, lui, est un peu plus en retrait, il valide les choix esthétiques et est spécialisé dans la partie visuelle. Cependant, les deux Daft Punk savent jouer de plusieurs instruments, ils savent composer, et les deux, avec un sens aigu du hit et de la mélodie. Et bien sûr, ils chantent avec ces voix passées au vocodeur, devenu leur marque de fabrique.
Alors, c'est intéressant, tu parlais des samples, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans cet album, même s'ils ne sont pas vraiment crédités.
Oui, il y a beaucoup de citations musicales dans cet album, qui est une déclaration d'amour à la culture populaire américaine, à la soul, au disco notamment. Sur Homework, Daft Punk utilise régulièrement un court extrait d'un titre qu'ils vont remanier en modifiant la tonalité et la vitesse, qu'ils réutilisent ensuite en boucle pour en faire un élément rythmique. Premier exemple avec le Hot Shot de la reine disco Karen Young, utilisé ici pour le titre Indo Silver Club. Voilà la boucle de Daft Punk.
Okay.
Et ensuite sur le morceau. Accéléré.
Ah, ah ouais.
Bien vu.
Voilà, et parfois les Daft Punk utilisent des boucles hyper courtes, hein. Cela peut être assez difficile au final de faire le lien entre le morceau original et la version de Daft Punk. Ici, Elton John et Kiki Dee avec Don't Go Breaking My Heart, bien maltraité par le duo pour créer le morceau Phoenix.
Savoir, hein.
Ouais,
faut aller le chercher,
j'avoue.
Pardon, mais là, mais incroyable.
Parfois, c'est vraiment hyper, hyper court, quoi. C'est même plus du sample, en fait. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que
c'est encore du sample?
Mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aller faire chier de sampler un morceau pour ce résultat?
Est-ce qu'ils ont payé des droits?
Alors, je pense pas pour tous, hein, parce que comme tu disais, Manu, tout a pas été
déclaré
dès le début, en fait. Voilà.
Ouais. C'est pas Elton John qui va découvrir qu'ils ont utilisé son morceau, là, perso.
Ouais. Alors, il arrive aussi que plusieurs samples soient à l'origine d'un même morceau. Écoutez par exemple Bar Keys, groupe de soul américain qui a notamment accompagné Otis Redding, et le morceau s'appelle Freaky Behavior.
Freaky
voilà la boucle de Daft Punk. Ensuite, vous ajoutez à cela la super ligne de basse qui défonce tout. Il s'agit ici de Down to Lovetown, hit disco de 1976 du groupe The Originals. Et vous obtenez le titre Burning sur Homework.
Waouh, c'est ouf, énorme, là on a l'impression d'être dans la chambre de Thomas et Guyman. C'est mortel, moi je connaissais certains samples mais jamais je les ai entendus comme ça. C'est hyper didactique, le disque il est incroyable et c'est vraiment un pilier de la musique électronique.
Ouais, hyper important hein, parce que c'est le début de la démocratisation du home studio, une manière de renouer aussi avec l'esprit punk et sa spontanéité. L'idée que les limites techniques peuvent servir à créer quelque chose de nouveau. Hyper important aussi parce que Daft Punk, en maîtrisant de A à Z sa musique et sa communication, rebat les cartes des relations entre artistes et majors du disque. Ce sera un vrai cas d'école d'ailleurs, notamment pour des artistes de hip-hop. Et hyper important enfin parce qu'avec Homework, le duo va mettre en orbite toute la French Touch et que les anglo-saxons vont arrêter de se foutre de notre gueule.
Ouais,
rien que pour ça, merci Daft Punk.
Merci.
Merci beaucoup. Merci.
Alors ma chère Fanny, c'est maintenant qu'on parle un peu de l'univers du groupe, et là t'as dû t'éclater, parce que pour les Daft, la musique a toujours été accompagnée d'une bonne grosse stratégie de communication. Guyman a fait les beaux-arts, Thomas a des stages en vidéo, très vite les mecs veulent créer un artwork bien à eux, et garder un contrôle absolu sur tout, sur leurs pochettes, dans les clips et même en promo.
Ouais, c'est exactement ça. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, le groupe a déjà une idée très précise de l'image qu'il souhaite véhiculer. Et s'il faut attendre encore quelques années avant que les casques de robots ne fassent leur apparition, en 97, comme Olivia l'a dit tout à l'heure, sur les photos de promotion de l'album, Thomas et Guyman apparaissent déjà le visage peint ou couvert de mousse à raser ou différents accessoires destinés à masquer leur visage.
C'est un trip, en fait.
Ouais,
hein.
Ouais, on a des cool photos avec la mousse à raser. Peut-être qu'on les utilisera pour promouvoir l'épisode. Et donc, ils sont déjà dans une réflexion importante liée à la communication du groupe et la pochette de Homework va leur donner une première occasion d'exprimer cette identité. Alors la pochette, elle a été réalisée par un copain à eux, le directeur artistique Serge Nicolas, qui vient à l'époque de fonder le magazine Magic Revue Pop Moderne et avec lequel ils ont déjà collaboré sur leur premier maxi, The New Wave, paru sur le label écossais Soma. Ils l'ont un peu embauché pour le remercier parce que c'est grâce à lui qu'ils avaient décroché le contrat avec ce label à l'époque. Donc quand ils discutent de ce premier album, à vrai dire, ils savent déjà exactement ce qu'ils veulent et ils ont préparé tout le concept. Le DA dit dans une interview d'ailleurs qu'il a fait seulement les aider à réaliser le projet en apportant un peu son expérience de graphiste et quelques petits conseils techniques.
En fait, il a rien fait, quoi.
Leur idée pour la pochette est simple, rendre hommage à la musique qui les a nourris, c'est-à-dire le rock, et ainsi prendre le contre-pied de ce qui se fait dans l'univers de la techno où l'imagerie est plutôt futuriste. Le groupe ambitionne de faire de sa pochette un classique et donc il faut que ça soit simple, efficace et un peu marketing, parce qu'ils citent les logos des Rolling Stones ou la marque Coca-Cola comme référence.
Bien joué.
Ouais. Juste les deux plus gros logos que tu peux connaître aux États-Unis, quoi.
Ouais, ils citaient aussi Tomato Ketchup, enfin des trucs hyper.
C'est vrai qu'on dirait
hyper
du ketchup,
iconique. Hein. Un petit peu. Alors la composition qu'on voit sur la pochette, c'est un gros plan sur le logo du groupe sous la forme d'un écusson brodé sur un morceau de satin noir et qu'on imagine être le dos d'un blouson bomber.
C'est classe.
L'anecdote marrante, c'est que en regardant le documentaire Daft Punk Unchained de la BBC sorti en 2015, il y a des images de live qui datent du début des années 90 et à plusieurs reprises on voit Thomas et Guyman qui portent quand ils jouent un blouson en satin noir avec écrit César's Palace au dos. Donc là, ils reprennent ce code vestimentaire qu'ils estiment cool et le customisent à leur sauce, c'est-à-dire avec leur propre logo dessiné par Guyman et qui a fait des études d'art plastique, comme tu disais tout à l'heure. À l'intérieur de l'album, il y a une double jaquette où on a l'impression de rentrer dans le blouson des IP qui dévoile la photo d'un bureau.
Là là.
Qui dévoile la photo d'un bureau d'ado avec plein d'objets posés dessus. C'est le photographe Nicolas Idiroglou qui a pris toutes ces images et il en explique un peu les coulisses dans une interview donnée au site 909 Originals.
Pour l'intérieur de la pochette, tout avait été arrangé par Thomas dans son appartement. Je suis allé chez lui, j'ai rencontré son père qui avait été un gros producteur de musique dans le passé et ensuite on est allé dans la chambre de Thomas. Il avait tout préparé sur son bureau, exactement de la manière dont cela apparaît dans l'album.
Alors ce bureau, il n'est pas exactement en bordel, hein, comme on peut croire au premier abord. Mais au contraire, chaque objet présent a été soigneusement sélectionné pour sa charge culturelle ou émotionnelle. On peut voir par exemple un poster du groupe Kiss, des autocollants de Led Zeppelin, des Beach Boys, des Who, des portraits de Thomas et Guyman enfants, un jeton de la boîte de nuit du Rex Club, un globe terrestre, un vinyle du groupe Chic, un exemplaire de Playboy, tourne-disques, quelques cassettes, des crayons et un bic posé juste à côté d'un cahier d'écolier où sur la couverture il y a écrit le petit mot « homework ».
Oh, c'est trop mignon, moi j'adore. C'est vraiment un truc qu'on faisait quand on était ado, tu sais, quand tu disais à tes copains au collège « Hey, tu viens voir ma chambre ?» Et t'es trop fier parce que t'as un super poster du film Les Visiteurs, que t'as des super CD. Et en fait là, les Daft, ils sont juste en train de faire une mise en scène de toutes leurs influences, quoi.
Ouais, et puis le coup du globe terrestre, tu peux aussi te dire, pour eux ça signifie un peu coucou,
on arrive,
on va conquérir le monde avec de la musique fabriquée dans notre chambre.
D'ailleurs, j'ai un peu geeké et je suis tombé sur un mec qui s'est lancé comme défi il y a un an de recréer cette pochette uniquement avec des pièces originales. Donc, il a déjà trouvé des magazines, les disques et les pochettes, ok, ça allait. Mais pour le reste, il galère vraiment. Donc, allez voir, suivez-le sur Reddit, il s'appelle Derpus Draconis et je crois qu'il aime bien les Daft.
Il est un peu barge, non?
Ouais, un peu.
Mais c'est surtout qu'il a un peu de temps à perdre. Hein.
Mais tu veux que j'appelle Thomas Bogaltar pour lui demander qu'il lui file directement sa collecte?
Ça serait sympa.
Je suis qu'à 1 degré de lui, hein, c'est faisable. Hein, si tu veux. Mais alors, revenons à nos moutons. On parlait de ce plan de conquête planétaire et la pochette super léchée, c'est juste la première étape. Ils vont rapidement enfoncer le clou en s'adjoignant les services de jeunes réalisateurs pour réaliser leurs clips. À l'époque, ils sont juste un peu hype, mais reconnus depuis comme étant des véritables maîtres du genre. Si je vous dis Roman Coppola, Spike Jonze et Michel Gondry, c'est pas des noms trop dégueux, n'est-ce pas?
Non, ça va.
Pas mal. Ouais.
Et sur les 4 clips sortis en marge de l'album Homework, je vais m'attarder sur les deux qui ont le plus marqué l'histoire et les esprits. Le premier, on en a déjà parlé, c'est le clip de Daft Punk, sorti en 97 et réalisé par l'américain Spike Jonze. Entre 92 et 97, ce dernier a réalisé une trentaine de clips, dont le plus célèbre est sans doute celui de It's Oh So Quiet de Björk.
Ouais.
Et je pourrais citer aussi Buddy Holly, The Wizard, The Diamond Sea, The Sonic Youth et Sabotage des Beastie Boys. Et c'est ça qui a donné envie au Daft de bosser, ouais, avec lui. Et Jones, bon, on connaît aussi un petit peu sa carrière dans le cinéma, dans la peau de John Malkovich. C'est lui, Her avec Joaquin Phoenix, pour lequel il a gagné un Oscar du meilleur scénario en 2014. Et c'est un très beau film d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu. Là, pour Daft Punk, il va sortir du cadre habituel du clip et produire carrément un court-métrage en 16 mm qui est titré Big City Nights, dans lequel on suit le cheminement nocturne d'un garçon appelé Charles à travers la ville de New York. We'll be okay. Things break, they heal. Yeah, my doctor said it's a clean break. Yeah, which is good. My kid, he busted up his ankle a while back. A couple of months in a cast, like new. Like nothing happened. Just take it easy, you know? No hula hooping or nothing. Okay, thanks, Benny. Look, kid, take it easy. Le pauvre a une jambe dans le plâtre et une tête de chien Saint-Hubert avec des grandes oreilles.
Tu connais en race de chien?
Je suis allée chercher.
Non, c'est vrai, c'est le vrai nom de la race Saint-Hubert.
Avec de grandes oreilles et des yeux tristes.
De très bons pisteurs. Je m'y connais en chien. Non, c'est vraiment ils ont un odorat exceptionnel.
Par contre, si vous voulez suivre Greg sur son autre podcast, Les chiens sont nos amis, n'hésitez pas.
Et donc on suit cet homme-chien qui se promène, et la première chose notable, c'est la disparition des artistes à l'écran, parce qu'à aucun moment du clip, on ne voit ou ne suggère même la présence des Daft Punk. Et déjà, il est justement à leur place, question d'un homme masqué, c'est pas mal. Et la deuxième chose hyper intéressante, c'est le traitement de la musique, qui parfois couvre tout le reste, comme dans un clip traditionnel, ou qui d'autres fois est utilisé de manière intradiégétique, c'est-à-dire intégrée à la narration, puisqu'au milieu des bruits urbains et des dialogues, on entend Daft Punk en fond sonore, diffusé par un ghetto blaster que Charles tient à la main. Et je vous passe les détails du scénario, mais il lui arrive tout un tas de péripéties, c'est vraiment construit comme une fiction, et le résultat est très très cool, ce qui a évidemment tapé dans l'œil de MTV, qui s'est mis à diffuser le clip en boucle pendant des mois.
C'est quand même assez hallucinant que deux mecs de 20 ans, ils aient eu tout ce battage autour d'eux, quoi. Enfin, moi, j'hallucine.
Non, mais
des clips hallucinants, une promo de ouf, alors qu'ils avaient rien fait jusque-là, quoi.
Ouais, ils avaient la vision. Je pense qu'ils avaient aussi été bien conseillés. Ouais, alors, et moi, j'avais lu un truc comme quoi c'est Pedro Winter qui les avait mis en relation avec Spike Jonze, parce que lui était skater, fan de skate, et que c'est lui qui les amenait à Spike Jonze, qui avait déjà fait les clips que tu dis, mais qui avait fait aussi pas mal de vidéos de skate.
De skate, exactement. Ouais. Et donc il y a un second clip qui est arrivé juste après Daft Punk, avec un autre réalisateur dont le talent dans la matière a fait date, puisqu'il s'agit du français Michel Gondry. Alors pareil, Gondry au début des années 90, c'est une valeur montante. Je danse le Mia, c'est lui. Les clips de Lenny Kravitz, Massive Attack, Bjork, Néné Cherry, c'est lui aussi. Et la liste est très très longue. Et comme son copain Spike, il va gagner quelques années plus tard un Oscar du meilleur scénario pour son film Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Michel, si tu le regardes.
Jusqu'ici, on peut dire que Daft Punk fait un sans faute et c'est très bien s'entourer. Mais dis-nous, Michel, au fait, pourquoi t'as eu envie de faire le clip de Round the World ?
Ce qui m'a intéressé dans les Daft Punk, au début, je me disais, c'est quand même très répétitif comme musique. Et puis après, j'ai écouté et puis j'ai vu que c'était assez envoûtant. Il y avait quelque chose de fort. Et puis j'ai compris quelque chose, c'est-à-dire qu'ils répétaient une structure jusqu'au point où ça devenait pénible, mais juste avant le pénible, il passait à autre chose. Moi, je trouve que ça crée une structure qui est assez stimulante, finalement, et en tout cas qui correspond un petit peu à des idées de construction. Moi, c'est un peu comme du Lego, d'une certaine manière.
Oui, et c'est cette idée de structure qui va lui donner le scénario du clip. Alors ce clip, il est cultissime, hein, vous l'avez forcément déjà vu. C'est super coloré avec des dizaines de personnages costumés en train de danser. L'idée, c'est de créer une chorégraphie géante et de faire incarner chaque instrument par différents personnages qui, selon Michel Gondry, correspondent le mieux au son qu'on entend. Donc dans le morceau, on a 5 ingrédients, la basse, la batterie, la guitare, le synthétiseur et le vocodeur. La ligne de basse est représentée par des athlètes super balèzes avec une toute petite tête. Le rythme de batterie est représenté par des momies. Les guitares, c'est des squelettes. Les synthés, c'est des disco girls rétro et glamour. Et le chant vocodeur, comme tu as une voix de robot, et ben c'est des robots. Le décor montre une piste de danse en forme de disque vinyle avec des podiums à l'intérieur. Et les différents personnages sont au départ cantonnés dans un espace bien précis de la scène. Les uns sur les marches, les autres sur un plot ou sur le disque. Et puis vers la fin, ils sont tous, quasiment tous ensemble. C'est complètement génial une fois que tu as compris le truc, d'essayer de regarder séparément chaque personnage. Enfin, je pense que moi je l'ai fait 5 fois de suite.
Non mais rebattez-le, hein, si vous le connaissez pas, ce clip il est incroyable.
Ouais, et donc comprendre la manière dont les mouvements font écho exactement au rythme. Et d'ailleurs la danse, pour la danse, Michel Gondry a fait appel à la chorégraphe espagnole Blanca Lee, et c'est très réussi, hyper ludique, hyper bien trouvé. Franchement, le clip est trop cool. On notera aussi que pour terminer, c'est la première fois dans l'univers des Daft Punk que la figure du robot apparaît. En interview, Gondry ne se rappelle plus très bien si c'est lui qui a eu l'idée ou si c'est Thomas Eggman qui l'avait suggéré, mais toujours est-il qu'à partir de la sortie de l'album Discovery en 2001, les Daft Punk apparaîtront exclusivement déguisés en robots. Et donc pour terminer, j'ai dégoté un extrait d'interview et ils expliquent le pourquoi du comment de leur transformation.
On a eu un petit accident avec les machines la nuit du 9 septembre 1999. Et donc, on a dû subir une intervention de reconstruction faciale avec docteur. Et c'est pourquoi on a l'air de robot aujourd'hui.
Je crois qu'en fait, c'est les frères Bogdanov sous le casque.
Ok, bah écoute, c'est une histoire qui est mortelle. En fait, ce qui est ouf, c'est que le groupe aujourd'hui, c'est le groupe le plus connu au monde, mais personne ne leur dit bonjour dans la rue, quoi. C'est,
t'es tranquille comme ça, hein. C'est pas mal.
Au moins, ils kiffent. Et alors maintenant, on a bien fait le tour de Homework. Vous l'avez écouté en boucle pour préparer cette émission. Alors, on en pense quoi de Homework aujourd'hui? C'est le moment de donner votre avis. On commence par toi, Olivia.
Bah écoute, ça a pas changé grand chose. Je suis désolée. Je suis pas sûre de aujourd'hui le réécouter un plus qu'avant l'épisode, je dois bien l'avouer. Mais j'ai eu pas mal de plaisir à vraiment travailler sur l'histoire de ce groupe parce que c'est quand même assez hallucinant de se dire que voilà, entre 16 et 20 ans, les mecs, ils savaient ce qu'ils avaient envie de faire. Je suis toujours super étonnée. Moi, à l'époque, j'appelais ça le syndrome de la patineuse parce que je regardais les âges des patineuses à la télé et je me disais, oh, elle a 14 ans! Moi, j'en ai 13 et j'en suis là! Et ben voilà, c'est exactement le même syndrome que je vis parce que eux étaient vraiment tout jeunes et ils ont révolutionné toute une musique, quoi.
Mais et du coup, l'album, t'as kiffé ou pas?
Non.
J'aime bien les détours. Oui, oui, ils ont beaucoup d'ambition. Ouais, j'aimerais avoir leur âge. Ok, bah, très bien. Et toi, Greg, c'était quoi?
Ouais, moi, j'ai adoré. Hein. Franchement, pour le coup, c'est un album que j'ai envie de réécouter après l'émission. Ce qui n'a pas toujours été le cas, j'avoue, dans nos précédentes émissions.
Non, mais il faut prendre des produits, quoi. Enfin,
ouais. Non, parce que, en fait, ce que j'aime bien dans la musique de Daft Punk, et d'ailleurs, ils citent, par exemple, Brian Wilson des Beach Boys, c'est pas un hasard, c'est qu'ils ont quand même ce sens de la mélodie.
Oui.
Et pour moi, ça reste de la musique pop, certes, dans un emballage techno, disco, tout ce que vous voulez, mais il y a quand même un sens de la mélodie qui est hyper, hyper pointu. Et moi, franchement, j'ai trop kiffé, quoi. J'ai trop kiffé sur Daft Punk, Révolution 909, Rolling and Scratching, enfin voilà, je trouve qu'il y a des morceaux vraiment qui sont des monuments, ouais, j'ose le dire, des monuments. Donc non, ça me donne envie de le réécouter et je le réécouterai après l'émission.
Eh ben ça me fait plaisir, Grégoire.
Ah bah hey, pour une fois que j'aime quelque chose.
Hein. C'est vrai que c'est assez rare.
L'essai est transformé, quoi. Alors toi, Fanny.
Eh ben moi, comme d'habitude, je n'aime pas. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette émission?
Non, je plaisante évidemment. Alors. Que dire? Daft Punk, je ne connaissais pas cet album, donc je l'ai découvert, et en fait c'est quand même une musique à laquelle je suis assez hermétique, et je trouve ça en fait très difficile de rentrer dedans, en dehors du contexte de la fête, oui. En dehors du contexte de la rave party pour lequel c'est calibré. C'est-à-dire que quand t'es chez toi, au calme, et que tu te dis, ah bah tiens, je vais me foutre Homework, c'est en fait, bah, ça te casse les oreilles, et comme disait Michel Gondry, c'est un petit peu pénible. non, après...
J'ai l'impression d'entendre ma mère, quoi.
Oh putain. Et comme Olivia, par contre, j'étais hyper intéressée justement de un peu mieux apprendre sur l'histoire de ce groupe, parce que je suis passée à côté, j'ai jamais été...
On était trop jeunes, en fait. Hein.
Non, moi, j'ai écouté pas mal d'électro après, mais moi,
oui,
j'étais complètement Team R, par exemple. Ouais. Je pense, en France, c'était soit R, soit Daft Punk. Moi, j'ai tous les disques de R, et j'ai écouté ça en long, en large, en travers, et Daft Punk, jamais. Enfin, jamais, jusqu'en 2013, parce que l'album Random Access Memories qu'ils ont sorti, pour le coup, dès qu'il y avait du Nile Rodgers, et que c'était un peu plus funky, ça me parlait carrément plus.
Mais,
ouais.
Mais d'ailleurs, c'est fou, hein, le nombre d'albums d'électro aujourd'hui cultes qui sont sortis en cette année 1997, hein, parce que il y a eu Prodigy, Square Pusher, c'est l'année où est sorti le single Come to Daddy de Aphex Twin.
Ouais. Enfin,
il y avait un bouillonnement, c'était une année de folie, quoi. Portishead aussi.
Les Anglais, ils étaient bien installés à l'époque.
Ouais,
ouais,
fort,
ils ont bien bossé là-dessus, quoi. Nous, en France, on a commencé vraiment à briquer à ce moment-là, mais. Ouais, bah tu vois, moi cet album, il me retourne encore, quoi. C'est un truc que j'ai pas arrêté d'écouter, en fait. C'est pas, mais ça fait très
90,
très longtemps.
En 97, t'écoutais.
Mais ouais, c'est ce que je te disais.
Ouais,
j'étais allé
ouais.
Le copier à la Fnac. Alors la première fois, j'avais pas trop kiffé, tu vois. J'étais resté sur Around the World parce que c'est resté un peu dansant, et ou sur Daft Punk. Mais maintenant, vraiment, t'as des morceaux que je redécouvre encore et je trouve ça génial, quoi. À chaque nouvelle écoute, j'en prends encore plein la gueule. Et quand en plus tu prends maintenant, tu vois, qu'on a fait ce travail-là de voir comment ils ont travaillé à travers des samples de soul, etc., de pop, etc. Tu te rends compte effectivement que c'est un album qui est fondateur parce que il va choper des influences de toute la pop musique. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant également avec la techno. C'est pas du tout juste une musique froide et minimaliste. C'est une musique qui vient des tripes, qui est faite pour la danse. Et voilà. Moi, ce que j'aime, c'est cette brutalité. Et en fait, là où le pari, en fait, qu'ils ont fait, il a hyper bien fonctionné sur moi. C'est que, effectivement, j'en prenais plein la gueule quand je découvrais Daft Punk à la télé entre un clip de Gala ou de G-Squad. Ça avait rien à voir. Et là, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait un autre champ des possibles. Mmh. Et j'ai trouvé ça génial, quoi.
Bah cool, c'est 50-50 à la table.
Pardon, c'est un peu des filles contre les garçons.
Ouais, c'est un peu filles garçons, ouais, là. Ouais. Ouais.
Bah, c'est hyper agressif comme son. Hein.
C'est vrai que c'est assez agressif. Ouais, il y a un côté
quoi,
brut.
Les filles peuvent être agressives. Hein.
Non, mais alors, pour autant, tu vois, justement, cet après-midi, je me disais, je vais chercher. Enfin, parce qu'il y a des sons techno, il y a des sons électro qui me plaisent mieux. Et je me suis demandé pourquoi, mais c'est parce que t'es dans une sorte d'entre-deux. Tout à l'heure, tu parlais d'un côté pop. Moi, je vois pas le côté pop. Si c'était pop, ça m'aurait carrément plu. Là, pour le coup, à mon sens, c'est pas.
c'est pop.
Non, mais ça,
tu peux le siffler. Si donc, c'est pop. Si. Ouais. Tu peux le siffler.
Ah, c'est ça la jauge.
Ouais, je pense que c'est une bonne jauge. Parce que tu peux à partir du moment où tu peux siffler, ça veut
c'est
dire qu'il y a
une. Y a...
Ouais, je trouve que c'est un bon moyen de se dire est-ce que c'est pop ou pas.
Cool.
Mais pareil, il y a des mélodies de musique classique qu'on peut considérer comme pop. Hein. Carmen, c'est pop. Et ouais, Daft Punk, dans un certain sens, ça l'est, ouais, je trouve aussi.
Bon, bah gardons ça comme fin.
Ouais, non, mais vraiment, c'est un super album. Et tu te rends compte, en fait, qu'il y a vraiment beaucoup à découvrir. Et là, le dernier morceau en date, c'était Fresh, quoi. J'ai trouvé ça génial quand sur ce morceau, t'as la guitare, tu sais, la petite disto qui continue pendant tout le morceau. T'as du sound recordings avec le bruit des vagues, que par-dessus, on va te rajouter la petite basse syncopée ultra typique. C'est génial en fait d'avoir un truc comme ça, c'est monumental pour l'époque et encore aujourd'hui.
Non, moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé découvrir le morceau Teachers,
ouais,
où ils citent toutes leurs sources d'influence, et parce que j'écoutais d'une oreille et puis tout d'un coup j'entends Dr. Dre is in the house.
je connais.
Ah ouais, trop cool. Ah, c'est cool.
Non, c'est vraiment un disque somme, voilà, que je réécouterai avec grand plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter?
Moi, c'est tout, mon colonel. Toi ?
Non, du tout.
Ok, bah alors merci de nous avoir suivis. C'était l'histoire de Homework des Daft Punk en compagnie de Olivia.
Merci Manu.
Et de Grégoire.
Bye bye.
Et de Fanny.
Merci.
Alors sur Radio Cassel, c'est déjà fini, mais la suite de l'émission, ça se passe chez les copains de Écoute ça. Flashback, on s'est rencontrés au Paris Podcast Festival et on s'est dit qu'il fallait absolument faire un truc ensemble, étant donné qu'on était très complémentaires, eux et nous. Leur podcast est trop cool, ils font un boulot de malade et ils parviennent tous les deux, Dame et Tom, à analyser et décortiquer des morceaux qu'ils écoutent souvent pour la première fois. Franchement, allez écouter,
ouais,
c'est génial c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast. Ça s'appelle Écoute ça. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, abonnez-vous sur Instagram, Twitter ou Facebook pour découvrir les trésors qu'on a trouvés en préparant cette émission. Et soutenez-nous en mettant des étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour remonter dans les classements around the world.
Bien joué.
Et voilà, alors c'est déjà fini, mes petits chats. Nous sommes allés trop loin pour abandonner qui nous sommes. Alors élevons-nous, élevons le niveau, élevons nos verres jusqu'aux étoiles.
Oh, joli get lucky.
On se quitte avec Da Funk. Bye bye.
Bye bye.
Ciao. À bientôt.
Manu, t'as une drôle de voix. Oh yeah. Est-ce qu'Olivier Godard a quelque chose à ajouter? Je me barre, moi. Mais c'est qui sous les casques de robots, là? D'ailleurs, c'est Charlie et Lulu. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est la fin de cette émission. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.